Cube Radio.
Sophie Durocher.
Mon nom est Sophie Durocher.
Sophie Durocher. Des opinions éclairantes qui font la différence.
Cube Radio.
Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher. On est mercredi le 16 septembre 2020. Écoutez, je vous propose de parler d'autre chose que de la pandémie. Je pense qu'on va en parler amplement pendant l'émission. Mais écoutez, il y a des chiffres qui sont sortis qui m'ont vraiment jeté à terre. C'est un sondage auprès de jeunes adultes américains. C'est un sondage qu'on retrouve, et c'est étonnant, dans un journal britannique, le Guardian. Et ce sondage vraiment donne froid dans le dos. Pas par rapport à la pandémie, par rapport à la Shoah, donc l'Holocauste. Près de deux tiers des jeunes adultes américains qui ignorent complètement qu'il y a 6 millions de Juifs qui ont été tués pendant la Shoah. Et parmi les adultes âgés de 18 à 39 ans, imaginez donc, il y en a près de la moitié, donc 48%, qui peuvent même pas nommer un seul camp de concentration. Puis si vous trouvez que c'est pas encore assez déprimant, il y a à peu près le quart des personnes qui ont répondu à ce sondage qui disent qu'ils croient que l'Holocauste c'est un mythe ou que c'est quelque chose qui a été exagéré ou alors ils sont pas trop sûrs. Donc, une personne sur huit qui dit qu'il en a jamais entendu parler de l'Holocauste. Bon, j'aimerais ça qu'on fasse un sondage semblable. Ce sondage-là a été fait donc aux États-Unis auprès des jeunes Américains. J'aimerais qu'on fasse un sondage semblable ici au Québec. Moi, ça fait des années que je dis que ça n'a aucun sens la façon dont on enseigne pas, la façon dont on enseigne mal, la façon dont on enseigne peu l'histoire au Québec. Et je suis sûre que si on faisait un sondage ici, les résultats seraient à peu près semblables. Vous avez juste à parler à des jeunes autour de vous, vous leur parlez de génocide. Eux, c'est des mots qu'ils utilisent souvent, hein, fasciste, génocide, tu sais, tout, des tyrans, la dictature, puis tout ça. Mais vous leur demandez de définir ce que c'est un génocide, définir ce que c'est un holocauste. Ils en ont aucune idée. Et ça, la faute en revient à notre système d'éducation. Donc, je pense que ce sondage-là, fait aux États-Unis, devrait nous éveiller les yeux, nous rendre extrêmement tristes que les jeunes générations en sachent si peu sur les horreurs de la Deuxième Guerre mondiale et des autres génocides, bien sûr, qu'il y a eu aussi, qu'il y a eu avant, qu'il y a eu après. Mais ce sondage-là, moi, personnellement, quand j'ai pris connaissance des résultats, j'ai poussé vraiment un très triste « ben voyons donc ».
Sophie Durocher.
Restez connectés. Tout ce que vous avez manqué est disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube.radio.
Dans un monde où tout le monde doit porter le masque, lui avance évidemment masqué, mais un masque griffé. Tous les mercredis, mon chroniqueur préféré, c'est Jean Héroldi, parce que c'est le seul que j'ai le mercredi. Bonjour Jean.
Bonjour, ça va bien?
Tu sais, c'est comme une maman qui a 5 enfants puis qui dit à chacun de ses 5 enfants, t'es mon préféré, t'es mon chouchou. Ben alors, je peux me permettre tous les mercredis de dire que t'es mon chroniqueur du mercredi préféré.
Puis ça, Dieu sait qu'on peut le dire à cachette. Moi, j'ai 2 filles, là, puis ma plus petite, elle aimerait tellement ça que je dise que c'est ma préférée parce qu'elle est tellement certaine que c'est l'autre qui est ma préférée.
Oh là là, écoute, dans la tête d'un enfant, on a tellement besoin d'entendre ces mots-là. Écoute, Jean, il y a pas que des désavantages quand même à cette pandémie qu'on déteste tous, ce satané virus. Dans le milieu de la mode, tout le monde a été obligé de se réinventer, là, c'est vraiment le mot à la mode. Et il y a quand même certains avantages parce qu'on a accès à des défilés auxquels on n'aurait pas accès en temps normal.
Ben, en fait, Sophie, ça a commencé un petit peu avant la COVID, ça, de
pouvoir avoir
accès à des défilés online, c'est-à-dire que les gens n'ont plus besoin de se déplacer. C'est sûr que la presse vont recevoir des invitations online sans aucun problème. Pour le public, ça dépend des saisons, ça dépend de ce qui se passe, mais on a quand même accès à des défilés. Et ça, c'est le fun, parce que moi, j'ai déjà regardé un défilé de Chanel là, en direct de chez moi. Et en temps normal, d'aller voir un défilé de Chanel, premièrement, d'avoir l'invitation, c'est toute une game parce que c'est quasi impossible d'avoir accès. Mais là, ce qui est bizarre, c'est qu'on les voit avant tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut penser aussi à tous les gens qui font de la copie, puis peuvent voir les défilés en direct. Mais ça se faisait pareil, hein, parce que même dans le temps, moi, dans les années 90, là, j'ai tellement trippé, là, parce que je terminais l'école, et mon rêve, c'était d'aller voir des défilés. J'ai toujours dit que si jamais il me reste 6 mois à vivre, ce que je veux faire, c'est retourner voir des défilés live à Paris. Et je ne sais pas si tu as déjà eu ça, mais c'est une jungle. Quand tu arrives, c'était au musée du Louvre, dans mon cas, et c'était, mm-hmm. c'était pour aller voir mon idole qui s'appelait Claude Montana. Plus personne ne le connaît vraiment. Mais le même matin, il y avait Valentino, Dior et Balmain. Et là, j'arrive là avec ma sœur, deux jeunes qui pensent qu'on a l'air assez mature pour être crédible, mais que dans le fond, on l'est pas du tout. Et là, les gens de Montana nous disent « Ah non, il n'y a pas de place, vous pouvez pas avoir accès avec les grands. » Dans ce temps-là, les gens fumaient beaucoup avec les grands fumes de cigarettes, très, 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 très snob.
C'est très drôle.
Et à un certain moment donné, une journaliste qui passe devant moi, qui s'appelle Marina Struzza, qui était journaliste à Toronto, que j'avais rencontré une fois par hasard, et en fait, par hasard, j'étais allé à Toronto aller-retour en train pour lui montrer mon book, mais ça n'avait rien donné. Mais là, vois-tu, ce matin-là, je la vois passer, et là, je dis, « Madame, je trouve ça, comment ça va? » Ça va bien. Elle dit, « Qu'est-ce que vous faites? » Je dis, « Ben, moi, je voudrais aller voir les défilés de mode. » Elle me dit, « Je vais voir ce que je peux faire. » Cette dame-là a dit deux mots à la fille à l'entrée, et on est rentré voir les défilés.
Wow!
Donc, j'ai vu Montana.
Ouais, vas-y.
Et là, j'ai eu la chance de prendre le champagne avec Grace Jones. Ensuite, j'ai vu Balmain, j'ai vu Valentino, j'ai vu Dior. Donc, dans ce temps-là, là, c'était tellement difficile. Mais aujourd'hui, hey, c'est tellement le fun pour les gens de la mode ou les gens qui aiment la mode. Parce que aussi, là, dans ce temps-là, des années 90, je sais pas si tu as déjà vu, Sophie, des gros livres. C'était comme des gros catalogues Sears, mais qui étaient juste des collections.
Non, j'ai jamais vu ça, mais j'imagine que ça doit être comme la Bible. C'est comme le Coran, c'est comme le... Ouais. Ah ouais.
$150 pour acheter là, le résumé des collections et là ben écoute là je les vois en direct pour moi c'est un charme et là on se dit ben oui mais pour la copie ça doit être encore plus facile mais même dans ce temps-là il y avait toujours et là je vais dire quelques petits asiatiques parce que c'est eux qui sont très très bons dans la copie qui réussissaient à rentrer et de toute façon si Dior présentait un nouveau style ben souvent ça sort dans les boutiques à moins
combien
cher,
de temps
la copie avant
Mais combien de temps ils sont capables? Combien de temps ils sont capables? Mettons que quelqu'un regarde justement le défilé est capable de se faire vraiment une image de comment tu peux le reproduire pour que ça ait l'air vrai. Ça prend combien de temps entre le défilé et le moment où il y a de la contrefaçon qui est disponible pour monsieur et madame tout le monde?
Moi, je veux dire qu'en 48 ans, ils sont capables de faire des miracles. Si on prend Capoté. L'exemple juste des Oscars, deux jours après les Oscars, il y a déjà des robes comme celle de Julia Roberts, comme parce qu'ils ont déjà comme les tissus. Puis on s'entend, si admettons qu'on va voir le défilé de Louis Vuitton, là, les sacs, on a déjà la toile, la copie de toile de plastique,
mais oui.
On va se dire. Les Louis Vuitton, c'est pas en cuir, c'est en plastique. Ils ont déjà les matériaux. Donc, à partir du moment où ils voient le style, ils sont hyper, hyper, hyper rapides.
Et en même temps, comme designer, est-ce que c'est en partie, tu peux dire, c'est un hommage ou vraiment c'est juste ça te met en tabarnouche de savoir qu'il y a de la contrefaçon?
Je pense qu'à un moment donné, il faut que tu deals avec, puis faut que tu dises que c'est pas nécessairement ta clientèle. Ça doit en couper un peu. Moi, je me suis déjà fait copier. Je sais pas si tu l'as déjà rencontré. Je me suis déjà fait copier par le château dans les années 90.
Hein?
J'ai arrivé devant la vitrine, j'ai fait « wow ». Mais dans le fond, c'était une copie. Tout le monde me disait hey, « c'est la rançon de la gloire », mais je leur disais « j'aimerais bien avoir la rançon dans mon compte de banque à plein. »
C'est une rançon qui est assez chère payée. C'est pas la rançon de la gloire, c'est le hold-up de la gloire.
Oui, par même temps, c'est pour ces grandes marques-là, au prix qu'ils vendent leurs affaires, je pense qu'ils courent un peu après le marché de la contrefaçon. C'est-à-dire que tu te demandes quasiment des fois si ça sort pas par la porte d'en arrière puis qu'il n'y en a pas qui sort par la porte d'en avant, tellement la copie est très, très bonne. Et là, quand on parle de copie, faut toujours penser, il y a des copies cheap puis il y a des très belles copies. Si vous allez à New York, par exemple, dans le quartier chinois et que vous achetez une copie sur la rue, probablement que même le logo est pas coupé à la bonne place. C'est des modèles qui n'existent pas. Mais si vous rentrez dans les usines, vous allez vous rendre compte que là, en payant 250-300 US, vous réussissez à avoir un sac qui est assez difficile de voir qui est vrai et qui est faux.
Donc là, vraiment...
Parce que la copie, c'est rien qu'on encourage. Et moi, il y a une phrase qui m'a toujours fait rire. Quand j'arrive à l'aéroport de Paris, c'est marqué « contre la contrefaçon » et c'est marqué « prochain défilé, palais de justice ».
Ah, c'est excellent! Ah, ça, c'est très, très bon. Mais en effet, il faut se défendre contre ça. Mais raconte-moi aussi, parce que le fait de pouvoir voir comme ça en ligne les défilés, moi, j'ai un rapport bizarre avec la mode. C'est que je considère en effet que les grands designers ont tout à fait leur place dans les musées. Tu sais, en ce moment, il y a très bientôt avoir une exposition Dior au musée McCord. Il y a déjà eu Yves Saint Laurent et tout. Bon, je comprends tout ça. Puis en même temps, très souvent, quand je regarde les défilés, quand je vois ça dans mes magazines, je me dis, mon Dieu, mais qui va porter ça? La mode a un côté aussi ridicule. Puis je comprends que ça peut influencer la façon dont les gens s'habillent dans la rue, mais admets-le avec moi quand même, genre, des fois, il y a des affaires, tu vois, sur les podiums, tu pars à rire parce que ça n'a aucune allure, là.
Ben, c'est un show, et je pense que plus on avance dans les années, plus c'est un show parce que les gens ne savent plus trop quoi faire. Tout a été un peu fait. Je pense d'ailleurs que c'est beaucoup plus intéressant d'aller voir des expositions de Yves Saint-Laurent et de Dior dans les années passées, puis de voir l'évolution. Aujourd'hui, c'est un peu n'importe quoi, puis c'est un peu difficile. Même moi, comme chroniqueur mode, là, si j'avais une chronique à faire uniquement de mode, je sais pas si j'aurais assez de contenu pour être intéressant.
Parce que qu'il n'y a pas assez de nouveautés? Parce qu'il n'y a pas assez de nouveautés?
Tout est à la mode. T'sais, tous les couleurs sont là. Y a-t-il une couleur qu'il ne faut absolument pas porter cette année? Pas vraiment, parce qu'on n'a pas été abusé de cette couleur-là l'année passée. Donc, il n'y a pas de tu sais, je pense que les gens ont besoin d'aide pour s'habiller par rapport à leur silhouette. Ça, je pense que oui, là, parce qu'il y a des gens qui ne l'ont pas, qui n'ont pas de goût, qui ne savent pas tout simplement comment. Pour eux autres, c'est trop gros. La mode d'aujourd'hui, c'est de mélanger des imprimés sur les passerelles, je parle, là. On mélange des imprimés que si on fait ça dans la rue, sincèrement, on va être traité de clown, puis avec raison, parce que ça fonctionne pas. Faut dire toujours que tout est davantage d'être grande, là. Sur une fille de 6 pieds, on peut faire des choses que sur la madame qui a une taille normale, c'est-à-dire, tu sais, la canadienne normale, c'est 5 et 3, 5 et 4. Il y a des choses qu'on ne peut
3,
plus faire.
Ah ouais.
Oui, mais c'est 5 et 4, je pense, maintenant, là.
Oui, c'est sûr que c'était un pantalon panthère, puis un haut carotté, puis des souliers avec des rayures. Tu vas avoir un petit peu l'air de Patov à 5 pieds 3, là. C'est pas méchant pour les gens qui mesurent 5 pieds 3,
non,
là.
Non, pas du tout.
Mais c'est une réalité, là. C'est vrai que ça a pas l'air de la même chose, mais en même temps,
à la patte éléphant.
Ouais, mais même Charlotte Cardin qui est meg puis qui est grande est toute mince, mais même elle là, si tu mets des pantalons carottés avec un haut de léopard, elle va être moins jolie que si elle porte des couleurs qui vont ensemble, il me semble, non?
Ben moi la description que tu as dit là, moi j'ai vu une image que c'était super beau. Vois-tu, ça dépend comment on l'interprète. J'ai trouvé ça beau, moi, ce que tu as dit.
C'est pour ça que t'es dans la mode puis pas moi. Ouais. Ah mon Dieu.
Ouais,
oui.
Non, mais je l'ai vu beau, moi, ça, mais tu sais ça, c'est toujours comme les gens qui m'écrivent puis qui me disent Monsieur Roddy, moi une robe bleue, est-ce que ça m'irait bien? Puis je leur dis tout le temps, faudrait que je vois la robe bleue, faudrait que je vous vois, puis faudrait que je vous vois dans la robe bleue, ça m'aiderait beaucoup parce que ça peut être un à ne pas faire ou wow, c'est beau. Ça peut être les deux. Fait que la mode, là, c'est vraiment, mais t'as raison, maintenant sur les passerelles, c'est plus un show. C'est un peu comme d'aller voir un spectacle, une comédie musicale à la limite. Et moi, un spectacle que j'ai vu, je pense que ça fait 2 ans que j'ai vu ça en Allemagne. C'était un show avec tous les vêtements de Thierry Mugler. Thierry Mugler ou Jean-Paul Gaultier? Non, Jean-Paul Gaultier. Et c'était de toute beauté, mais c'est rendu ça, la mode, c'est que la folie, c'est pour nous faire rêver, mais on revient après ça à nos pantalons noirs et à notre chemise blanche.
Ben c'est ça, à un moment donné, on revient tout le temps à des classiques. Écoute, t'en as parlé un tout petit peu tout à l'heure de Louis Vuitton. Ils ont sorti, écoute, une visière, je pense que ça coûte comme 900 $, donc une visière évidemment pour se protéger des gouttelettes, des fameuses gouttelettes de la COVID. C'est pas un peu débile, c'est-à-dire que, tu sais, je veux dire, on a le sentiment qu'il y a des gens qui profitent de cette pandémie, puis du fait qu'on est tous obligés de porter un masque ou une visière. Et il y en a qui en profitent pour, je veux dire, vendre des trucs hors de prix, parce qu'ils savent qu'il y a un public qui tu sais, pour chaque torchon trouve sa guenille, là, il y a des gens qui sont assez fous pour payer 900 $ pour une visière. C'est un peu débile, quand même.
Puis on s'entend-tu, Sophie, que si t'as la visière à 961 $, il faut quasiment que tu aies le masque Louis Vuitton en dessous qui doit coûter un autre 1 500, parce que tu peux pas avoir ton petit, moi je l'appelle toujours le petit pipipad, le petit masque bleu médical en dessous. Il faut que tu aies le masque qui va ensemble. Moi, je pense pas que les compagnies, par contre, en profitent, parce que je me suis fait traiter un peu de profiteur, moi aussi, sur les réseaux sociaux. Je pense pas qu'on en profite. On répond à un besoin. Et si les gens sont assez fous pour en acheter, ça, c'est une autre affaire. Mais moi, je dois vous dire que des Louis Vuitton, ils n'étaient pas au courant, le Louis Vuitton, mais moi, j'en ai déjà vu au marché aux puces à Bromont il y a peut-être déjà 3 mois de ça. Ils se vendent déjà, ils étaient 35 à 50 $ des masques, des faux masques Louis Vuitton. Et ça fait un peu partie de l'exemple que je disais tantôt. C'est des modèles qui n'existent pas, mais que la copie a décidé qu'ils existaient.
Écoute, ça, c'est très drôle. Il faudrait prévenir Louis ou...
ou Vuitton.
Non, c'est une joke. Non, c'est parce que c'est LVMH. Mais c'est une compagnie qui appartient...
C'est qui s'appelle Louis Vuitton.
Ouais. Oui, qui s'appelle Louis Vuitton, mais c'est ça, c'est LVMH. C'est un grand groupe de produits de luxe qui appartient à Bernard Arnault, un des hommes... l'homme le plus riche de France et qui est marié avec une Québécoise, d'ailleurs, Hélène Mercier, qui s'appelle maintenant Hélène Arnault. Donc, il y a un petit peu de nous là-dedans, quand même. C'est assez drôle. Écoute, je veux absolument qu'on parle de l'Halloween, parce que bon, ça s'en vient, c'est le 31 octobre, c'est le moment de l'année où tout le monde, petits et grands, se costume, puis habituellement, toi, chaque année, les gens te parlent en disant ça va être quoi les tendances de costume cette année. Est-ce que tu as envisagé la possibilité qu'il y ait tout simplement pas d'Halloween cette année à cause de la pandémie?
Moi, j'aime tellement l'Halloween, là. Je capote. J'ai mes enfants, chaque année, c'est moi qui les aide l'Halloween parce qu'on a du fun, on se déguise en costume, on regarde des vieux costumes des années d'avant, on pige là-dedans, on habille des voisins. Je ne sais pas cette année, ce qui est à coup sûr, c'est que le démaquillage va être moins long parce qu'on va avoir un masque la moitié du visage. Fait que c'est sûr que ça va être moins dur. Il y a moins d'enfants qui vont arriver la face beurrée le lendemain à l'école. Mais je me demande, est-ce que ça va vraiment exister? Parce que est-ce que ça me tente vraiment d'avoir les voisins qui viennent chercher des bonbons chez nous?
Voilà. Ben c'est ça, c'est la question fondamentale que je posais ce matin à Pierre Nantel. Je lui disais, écoute, mets ça tout ensemble, tout ce que c'est l'Halloween, d'aller frapper chez des inconnus, de partager des produits que tout le monde va avoir tripoté et organiser des parties, parce que pour les petits, c'est les bonbons, pour les grands, c'est les parties. Mais ces trois affaires-là ensemble, c'est exactement les trois affaires qu'il ne faut pas faire. Des rassemblements, manipuler des produits qu'on s'échange et être en contact les uns avec les autres dans des espaces étroits. Ben, je dirais, c'est une recette pour une éclosion, ça.
Que je commence à laver mes bonbons en revenant, là.
Ben là.
Ça me décourage un peu. Je me dis peut-être ce qui serait le fun pour les jeunes, ça serait d'organiser peut-être dans un parc avec la distanciation. Mais encore là, on remet les bonbons. Je sais pas, j'essaie de voir un moyen qui serait le fun, puis j'en trouve pas vraiment.
Puis l'autre aspect, c'est que, tu sais, je veux dire, c'est bien beau. Arruda, docteur Arruda, à un moment donné, avait dit, ben, on sait pas exactement à quoi ça va ressembler. C'est sûr que ça va pas être une Halloween normale. Il dit, on pourrait penser à avoir une Halloween virtuelle. Fait que là, j'ai pensé à ça 2 secondes. Je me disais, attends 2 secondes, toi. On va faire ça de façon virtuelle, les bonbons. On va se regarder. Tu sais, tu peux faire une réunion par Zoom, tu peux faire plein de choses avec Zoom, mais Zoom sur des bonbons, je te le dis, c'est pas vraiment pareil.
Non, moi, non, puis nos jeunes, c'est même s'ils n'en mangent pas la moitié du sac qu'ils ont ramassé, d'avoir un bon sac de bonbons. Là. Écoute, moi, quand j'étais jeune, moi, j'habitais entre Richemont et Windsor dans le canton de l'Est. Fait que des fois, c'était pas le même soir, je sais pas pourquoi, là, mais des fois, c'était comme le mardi ou le vendredi, puis le samedi à l'autre place.
Moi, je faisais deux fois?
Ouais,
es-tu
tellement.
Es-tu sérieux?
Ça m'est arrivé même dans des parties d'Halloween d'avoir 2 costumes. Fait qu'à la milieu de la soirée, j'allais me changer. Fois où mon ami a pogné... c'est-à-dire que j'avais changé de costume avec un de mes amis et que ma blonde y a pogné une fesse. J'ai fait que je pense que c'est le temps qu'on change de tout.
C'est très drôle, j'imagine que c'était un bal masqué aussi, parce que sinon elle l'aurait reconnu.
Exactement.
Elle l'aurait reconnu de face. Écoute, ça c'est la meilleure anecdote d'Halloween de tous les temps. Écoute, Jean, c'est toujours un plaisir de te parler. Écoute, on va peut-être avoir la réponse au cours des prochains jours, on va savoir exactement ce qui se passe.
Peut-être qu'Apple va nous inventer une télé qui pitche des bonbons, là. Je veux dire, ça existe pour, tu sais, il y a des machins maintenant là, que tu peux avoir dans ta maison, puis tu donnes des bonbons à ton chat puis à ton chien à distance. Je me dis, y a-t-il quelque chose qu'on peut faire? Je sais pas.
Et monsieur, ben oui, c'est ça, comme une distributrice virtuelle à distance. Écoute, ça commence à devenir compliqué, ça, juste pour... la solution, moi, que j'ai trouvée, c'est, écoute, je vais emmener mon fils à la pharmacie ou chez Costco, puis je lui dis, regarde, t'as un budget de 30 $, là, achète-toi des bonbons, on va rentrer à la maison, on va tous se rendre malades à manger des O'Henry puis des Nibs... Les nibs rouges, puis ils regardent.
En même temps, là, ils vont choisir les bonbons qu'ils veulent vraiment manger.
Ben, exactement. Ça va être bien meilleur plutôt que d'en jeter la moitié.
Je pense que tu l'as.
Tu sais, tous les petites, les espèces de petites roulettes, là, les petits bonbons de pâle, là, ronds comme dans un espèce de tube, il n'y a personne qui veut ça. Mais il y a plein de gens qui en donnent, mais il n'y a personne qui a le goût de les manger. Bon, ben écoute, je t'en enverrai par la poste. Hey, merci beaucoup, ben, Jean, on se retrouve.
Envoie-moi ce que tu n'aimes pas, puis je fais pareil, peut-être que ça va marcher comme ça.
Moi, je veux des nibs rouges. Allez, à mercredi prochain, bye. Bye.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Sophie Durocher.
Ne ratez plus rien. Cette émission est aussi disponible en podcast dans la bibliothèque balado de l'application ou du site cube.radio.
Il y a une vidéo qui circule beaucoup, beaucoup sur mes médias sociaux, en tout cas ces jours-ci, depuis quelques jours. C'est Marc Labrèche à l'émission cette année-là à Télé-Québec qui fait une entrevue avec sa maman, Michèle Labrèche-Larouche, parce qu'elle sort un livre ces jours-ci et dans lequel elle raconte des hommes qui ont été marquants dans sa vie et rentre pas mal dans les détails de sa vie sexuelle. Et c'était absolument hilarant de voir Marc Labrèche qui réagit à la vie sexuelle de sa maman. Ben, moi, je me suis dit, pourquoi passer par Marc Labrèche? On va parler directement à Michèle Labrèche-Larouche. Bonjour, Madame Labrèche-Larouche, comment allez-vous?
Ben, je vais bien, merci, Sophie, et vous?
Ben, moi, je vais très bien parce que ce matin, aux aurores, j'ai lu votre livre. Je me suis glissée sous la couverture et maintenant, je sais tout de votre vie sexuelle, Michèle.
Oh mon Dieu, vous avez fait ça ce matin aux aurores, ben je vous admire.
Ben oui! Écoutez, ça commence bien la journée de parler, de lire sur votre vie sexuelle et toutes les positions du Kama Sutra. Moi, je trouve ça formidable en 2020 que quelqu'un qui a 82 ans nous dise, écoutez, moi, ce qui a marqué ma vie amoureuse, ma vie sexuelle, c'est la liberté. Est-ce que votre intention, c'était de provoquer un peu les gens en leur disant, écoutez, même si j'ai plus de 80 ans, j'ai quand même une vie sexuelle et je vais vous en parler.
Écoutez, non. Je vais vous dire, moi, quand je suis revenue des Indes, après ma fameuse séance de Kama Sutra avec l'homme des sables dans le désert, on continuait à communiquer là par WhatsApp et tout ça, puis je portais ça, moi, c'était loin, puis c'était difficile, puis j'étais quand même pris là-dedans, puis etc. Bon, alors j'en ai parlé à Marc, et il m'a dit, écoute maman, faut que tu exorcises ça. Alors pour l'exorciser, faut l'écrire. Alors, et puis effectivement, hein, je le dis à tout le monde, ça marche là. Fait que je l'ai fait, mais j'avais déjà dans mes cartons certaines histoires colorées de mes amants, là. Je veux dire, en 80 ans de vie, tu sais, il y en a quand même une couple pour certains. Certaines. Donc, j'ai envoyé ça à l'éditeur. J'ai envoyé ça, la liane grimpante, avec l'Indien, c'est le titre de l'épisode. Puis les autres histoires. Et puis, il a beaucoup aimé ça. Et là, très étonnamment, tu sais, tandis que souvent, je me souviens pas qu'est-ce que j'ai mangé la veille puis à qui j'ai parlé. Là, finalement, me sont remontés des personnages. Certains venaient de la mémoire puis d'autres du cœur, là. Et puis alors, évidemment, il y a un petit peu plus que 40, c'est surtout des amants, mais c'est aussi des hommes qui m'ont ébranlé, qui m'ont impressionné, qui m'ont déçu, qui m'ont révolté, qui en tout cas, ils m'ont toujours touché, ils m'ont toujours fait quelque chose. Donc, puis il y a des quelques gens, c'est là, ben, je parle de mon fils, évidemment, puis de son père, qui reste les hommes les plus importants de ma vie.
Oui, guettant la brèche. Donc, oui. C'est moi, je déteste faire ça, de dire de quelqu'un, c'est la mère de, ou la fille de, ou la sœur de, ou la femme de. Mais dans votre cas, quand même, bien que vous ayez votre carrière à vous, bien sûr, comme auteur, comme chroniqueuse, comme journaliste, il reste quand même que vous avez été, donc, à un moment donné, la femme de Gaétan Labrèche, la mère de Marc Labrèche, la grand-mère de Léane Labrèche d'or. Et je trouve ça le fun qu'aujourd'hui, vous écrivez écriviez ce livre-là, parce que c'est votre vie à vous et ce que vous avez vécu qui devient le focus de l'attention. Puis je veux qu'on revienne sur votre histoire de Kama Sutra, parce que cette histoire-là est quand même hallucinante. Donc, vous allez en Inde, vous rencontrez là-bas quelqu'un qui est guide, qui accompagne des touristes dans le désert, mm-hmm. et vous découvrez avec lui des positions sexuelles. Puis, moi, j'ai aucune gêne à parler de ça, puis vous avez aucune gêne non plus à en parler dans votre livre. Vous allez même jusqu'à dire que, alors que vous avez toute votre vie cherché à trouver où était votre point G,
oui.
c'est grâce à ce monsieur-là qui est analphabète quand même, il faut le faire. Il connaît pas les lettres de l'alphabet, mais il vous a aidé à trouver votre point G. C'est quand même plein de candeur de votre part, de parler ouvertement de quelque chose qui est quand même très intime.
Ben, moi, je trouvais que c'était amusant. Et puis, je veux dire, c'est... Et comme je vous dis, au départ, c'était pour exorciser ça. Fait que de passer à travers tout ça, écoute, c'était pour me faire du bien. À moi, puis je me disais, c'est amusant, ça arrive pas à tout le monde, c'est exceptionnel, c'est une aventure, et puis en plus que ça vous arrive à 80 ans, disons que c'est pas pire, tu sais, je veux dire, c'est pas fini tant que c'est pas fini, là.
Ben oui!
C'est ça.
Non, mais c'est bien, parce que je pense à des gens comme Jeannette Bertrand, par exemple, qui démystifie aussi la sexualité, puis rappelle à tout le monde que c'est pas parce que on a une couple d'années derrière le cravate qu'on arrête d'avoir une vie sexuelle. Je trouve que c'est super important que vous écriviez ce livre-là pour nous raconter justement votre plaisir et votre joie d'avoir des orgasmes à 80 ans. Je trouve ça génial, moi.
Ben oui, puis je pense que c'est encourageant pour, comme je vous dis, je me répète, là, je l'ai pas fait pour ça, mais si ça fait ça, si ça encourage les femmes à jamais abdiquer, si ça les intéresse de continuer, là, bien sûr, parce que je reconnais qu'on puisse abdiquer, là, puis dire, ben c'est fini, je fais autre chose, mais je trouve que ça fait du bien de lire ça. Moi, en tout cas, si j'avais lu ça, là, puis si je l'avais pas vécu, je me dit, ben coudonc, tu sais, je veux dire, tout espoir n'est pas perdu, on peut vivre plein de choses, puis l'âge n'a rien à voir là-dedans. Puis, comme vous savez, je termine mon livre, il n'y a pas d'âge pour les braves, puis c'est vrai, c'est à nous de ne pas s'arrêter, en fait, et puis de dire, bon, moi, je m'ouvre à ce qui m'intéresse, malgré mon âge, en fait.
Oui. Mais dans la vidéo dont je parle, qu'on trouve sur le site de Télé-Québec, où Marc vous interviewe sur votre livre, c'est sûr qu'on s'est tous mis à la place de Marc Labrèche en disant, bon, d'abord, on a de la difficulté comme adulte à imaginer ou à admettre que nos parents ont ou ont eu des relations sexuelles, mais moi, je sais que je serais gênée si ma mère écrivait un livre où elle nous décrivait dans le détail tous les amants, il y en a un qui voulait se faire fouetter, puis l'autre, ben c'était comme un triangle amoureux, puis l'autre, il criait maman au moment où il jouissait. Mais vous, ça vous a pas dérangé de dire, ben je suis la mère de Marc Labrèche, puis tout le monde va savoir c'est quoi ma vie sexuelle?
Ben, c'est-à-dire que d'abord, c'est Marc qui m'a encouragée à écrire le premier épisode, d'une part. Donc, il savait très bien que j'allais pas n'en sortir qu'un. Je faisais un livre, quand même.
Il a fait exprès, il a couru après.
Il a couru après, mais en même temps, je pense que ça l'amusait un peu. Et ça lui a permis, en plus, qui m'a beaucoup touchée, de dire, « Maman, tu m'as appris la liberté. » Fait que ça, là, je veux dire, toute mère est contente de savoir ça. Tu sais, si je t'ai donné quelque chose, si je t'ai légué un héritage, il n'aura pas grand-chose, le pauvre. Je veux dire, c'est quand même la liberté pour moi qui est une valeur pour moi extrêmement importante. Et puis, ce qui n'empêche pas de s'engager, ce qui n'empêche pas la responsabilité, ce qui n'empêche rien. Mais au départ, s'il peut être aussi libre qu'il le désire et s'il me le doit en partie, ben je suis très contente.
C'est très intéressant parce qu'à un moment donné, un des hommes que vous rencontrez, qui a été votre amant, je dirais, de façon intermittente pendant, je pense, à peu près 15 ans, à un moment donné, il vous propose, il vous dit, ben, lâche ton travail, moi, je vais te verser de l'argent, puis on va pouvoir être ensemble, mais seulement 3 mois par année. Et là, je me disais, oh là là, Michel, c'est vraiment pas le genre de femme à se cadenasser comme ça. Donc, votre vie, ça a toujours été de jumeler une certaine liberté sexuelle avec un attachement quand même aux hommes. C'est pas évident à trouver comme équilibre.
Non, ben c'est ça. Puis comme je le dis, ça n'a rien empêché. Là, je veux dire, chaque choix comporte des inconvénients, comme on sait. Puis la vie est une suite de choix. Alors des fois, moi, comme j'y vais quand ça me tente, au risque parfois de ne pas complètement me protéger, là, parce que je pense que c'est en vivant ce qu'on veut vivre qu'on en apprend le plus sur les autres, mais surtout sur soi-même. Ça n'a pas empêché les remises en question, ça n'a pas empêché les ruptures, ça n'a pas empêché la peine, ça n'a pas empêché... ça n'a rien empêché, en fait.
Oui. À un moment donné, vous parlez des années 70 en parlant oui. du fait que ça a été vraiment un grand moment de libération sexuelle, que c'était une époque vraiment formidable de liberté. Je me demande quel regard Michel Labrèche-Larouche porte sur les années 2020. Parce que on peut, en un clic, trouver quelqu'un avec qui baiser, là, avec Tinder, avec toutes sortes d'autres applications. Puis en même temps, c'est une époque quand même assez prude. Qu'est-ce que vous pensez de quelqu'un qui a 20 ans en 2020? Son rapport à la sexualité?
Je ne les envie pas. Moi, j'ai des petits-enfants là, qui ont à peu près 30 ans, là, tout ça. Et puis, moi, je les vois comme des mutants. T'sais. Ils cherchent, ils sont libres sexuellement, puis ils redéfinissent le couple, les aventures. C'est comme pas facile. C'est comme, je veux dire, ils ont l'air libres, mais ils le sont moins que moi je l'étais à l'époque, je pense.
Mais c'est ça, je me doutais que vous alliez dire ça.
Ouais,
parce que j'ai l'impression que vous étiez libre entre les deux oreilles et je suis pas sûre que eux le sont.
Parce que c'est difficile. Moi, je les vois se dépatouiller là-dedans, là. Mes petits-enfants et puis mes jeunes amis, mais surtout les petits-enfants. Et puis, ils travaillent. Puis souvent, ils ont été enfants de parents séparés.
Oui.
Donc, le couple, c'est important pour eux de le réussir, la famille, tout ça. Puis, Puis, en plus, tu sais, les gars, comment dire, il y a un de ces jeunes-là qui m'a dit un jour, écoute, moi, j'aurais pu avoir une blonde par mois si j'avais voulu. À un moment donné, je me suis dit, il faut choisir. C'était comme, puis pourtant, je l'aime, cette fille-là, tout ça, mais c'était comme, et vraiment, ça m'a fait un très étrange effet. Tu sais, je veux dire, rationnellement, là, il faut que je choisisse. Il faut que je choisisse parce que je peux pas continuer comme ça, mais en même temps, il y a un renoncement là-dedans. Je veux dire, pour moi, l'amour, c'est quelque chose où tu vas, t'as pas l'impression de renoncer à quoi que ce soit, là, tu sais.
Mais non, c'est ça. Donc, il y a moins quand même, moins de liberté. Une des histoires que vous racontez, parce que bon, il y en a évidemment plus de 40, mais une histoire que vous racontez, c'est avec un homme qui s'appelle James, et êtes au lit avec lui le matin, puis à un moment donné, le téléphone sonne, puis c'est sa femme,
en disant,
je suis la femme de James, est-ce que je peux lui parler, puis tout ça, puis à un moment donné, je pense même vous développez une amitié avec la femme de ce monsieur-là. C'est particulier quand même, un triangle amoureux, vous pouvez dire que vous avez vraiment vécu ça, vous?
Ouais. Et puis, écoutez, on était devenus bien copines, là. Tu sais, je connaissais toutes les histoires de famille. Et puis, en même temps, lui, je pouvais pas lui en vouloir. Il dit, tu comprends, les enfants, faut que ma femme sache où je suis. Puis ça, c'est très british. Ils ont une espèce de... Ils ont une espèce d'humour par rapport à tout ça. Et puis, ils prennent ça avec humour. Fait qu'il faut que tu fasses pareil, là, si tu veux pas souffrir. Et puis, c'est un de ceux qui me manque le plus.
Ah oui? Vous pensez à lui souvent?
Oui, c'est-à-dire que ça m'arrive parfois, parce que il était adorable, puis on s'est revus après à New York et tout ça, tu sais. Mais, je veux dire, puis même, je me dis, si je le revoyais, moi, je rencontrerais sa femme. Bon, comment je réagirais face à ça, je ne le sais pas. Tu sais, parce que, oui, je sais pas. Mais quand même, il m'a marqué. Tu vois, il m'a marqué, puis j'y pense encore.
C'est fou, hein?
Oui, c'est fou. On sait pas, hein? On sait tellement rien.
Quand vous regardez ça, quand vous regardez ce livre que vous avez écrit où vous racontez donc ces 40 histoires d'amour, qu'est-ce que vous retenez de tout ça? Est-ce que vous avez vraiment l'impression d'avoir été libre? Est-ce que c'est ça qui vous définit, cette liberté par rapport à la sexualité, par rapport à l'amour, par rapport aux hommes?
Oui, je pense que oui. Mais écoute, ils n'ont pas tous été des histoires d'amour comme l'histoire, les paraphiles, là, l'histoire de...
Oui.
Les fouettes et tout ça, j'ai refusé, mais j'ai été témoin. Puis ça m'a appris beaucoup de choses, finalement, sur la sexualité humaine. Tu sais, c'est quelque chose d'extrêmement complexe et mystérieux. Et ça a des facettes, qui resteront inconnues jusqu'à la fin des temps, j'ai l'impression.
Oui.
Mais... J'ai trouvé ça intéressant quand même à observer. Et puis c'est pour ça que je les ai ajoutés là, à côté des autres.
Oui, c'est ça. Même si vous-même, vous n'avez pas été une fouetteuse, vous avez côtoyé, en tout cas, des gens qui, eux, souhaitaient se faire fouetter. Puis vous avez tout à fait raison, la sexualité humaine est tellement pleine de recoins bizarres. Mais écoutez, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on apprend que même à plus de 80 ans, on peut finalement découvrir son point G quelque part dans le désert en faisant la position de du lierre grimpant, c'est ça?
La liane grimpante.
La liane grimpante. Alors,
grimpante.
Juste brièvement, pour ceux qui savent pas, c'est quoi, juste nous le décrire, le bras gauche va où, puis la main droite va où?
Ça. Alors, ça a été quand même une surprise, parce que, on était étendus, tout ça, il était en moi, et tout à coup, ça allait bien, là, toute l'affaire, moi, je m'attendais à ce que ce soit bien traditionnel, et tout à coup, j'ai senti comme deux mains se glisser sous mes fesses, et me soulever comme une plume. Je suis pas une plume, tu sais. Me soulever. Alors, il s'est mis en petit bonhomme, puis ensuite debout. Et puis, c'est là qu'il a mis ma jambe droite sur son épaule gauche et ma jambe gauche autour de sa taille. Et c'est assez hallucinant parce que on est très libre, on est très collé, puis en même temps, on est très libre de faire les mouvements qu'on veut dans les airs. Essayez ça avec votre chum.
Oh ben, je vais essayer ça avec Monsieur Durocher ce soir là. Je vais dire, viens, on va faire la brouette grimpante, la liane ensorcelée.
C'est assez étonnant. Tu sais,
C'est assez spécial. Bon, en tout cas, je prends des notes là. Je prends des notes, puis on va essayer ça avec Monsieur Durocher ce soir. Et c'est vraiment l'expression s'envoyer en l'air dans ce cas-là, c'est vraiment ça, parce que la façon dont vous le décrivez, on s'en va direct au septième ciel. Michel Labrèche-Larouche, ça a été un plaisir de vous parler, d'explorer votre sexualité en toute candeur, puis continuez d'être libre comme ça. On a besoin de dames indignes comme vous là qui nous parlent des détails de ce qui se passe dans leur chambre à coucher. Ça fait du bien.
Merci beaucoup, Sophie. J'ai beaucoup aimé cette conversation avec vous aussi.
Ah, ben, c'est gentil.
Je vous remercie d'avoir pensé à moi.
Ben, c'est un plaisir.
Bonne journée aussi.
Merci, Michel. Donc, son livre s'intitule « Les 40 hommes de ma vie couchés sur le papier ». Et c'est donc, accessoirement, la maman de Marc Labrèche, quand même, qui vient de nous décrire toutes ses galipettes et ses galipotes sous la couverture.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Sophie Durocher.
Ne ratez plus rien. Cette émission est aussi disponible en podcast dans la bibliothèque balado de l'application ou du site cube.radio.
Depuis que le gouvernement a annoncé les différents paliers, là, le fameux vert, jaune, orange et rouge, ben on est plusieurs à se gratter la tête en se demandant ben exactement ça va être quoi les détails de tout ça, l'application, les critères, les objectifs. Même les partis d'opposition réclament beaucoup plus de détails sur ces fameux paliers. C'est pour ça que c'est drôlement intéressant que mon prochain invité, Patrick Derry, qui est spécialiste, analyste en politique publique, il a tout un scoop, il a mis la main donc sur un document du gouvernement qui explique tout ça, mais de façon très détaillée. Patrick Derry, bonjour.
Bonjour Sophie.
Félicitations pour votre scoop, Patrick. Pourquoi c'est important, merci, ce document-là sur lequel vous avez mis la main?
Bien, ça fait quelques semaines qu'on a eu, on s'est fait présenter le palier d'alerte pour savoir comment les régions du Québec allaient être classées en fonction de l'évolution de la pandémie. Et c'est que laisse entendre que quand une région passe du jaune au orange et peut-être au rouge, si ça arrive, il devait avoir d'autres mesures de confinement qui seraient ciblées. Par contre, le gouvernement n'avait pas voulu rendre public les critères qui mènent au changement de catégorie d'une zone. Et comme, par exemple, le font d'autres juridictions, en France, les critères sont clairs. Mm-hmm. Bon, ils ne sont pas appliqués présentement, mais ça, c'est une autre histoire. Mais en Allemagne aussi, par exemple, on sait que c'est un seuil de 50 cas par 100 000 habitants au bout d'une semaine, fait qu'une zone tombe en confinement ciblé. Mais ici, on ne le savait pas. Le gouvernement restait dans le flou, disait qu'il y avait des critères chiffrés, mais ne voulait pas les dire, et disait qu'il y avait aussi des critères qualitatifs qu'il ne voulait pas dévoiler. Et on les a, puis c'est dans un document qui a été présenté cette semaine lors d'un webinaire aux médecins spécialistes, puis on a le détail des critères.
On a le détail. Alors, une chose qui est intéressante, d'abord de façon générale, c'est que le gouvernement n'est plus du tout rendu à dire « on va essayer d'enrayer la pandémie ». Ils sont vraiment juste à dire ben, « comment on peut limiter les effets ». Est-ce que ça correspond bien, là, je résume bien le document?
Oui, c'est ça, c'est ma compréhension, c'est vraiment ce qui est écrit. Là, il y a trois objectifs qui sont mentionnés là, au début du document. Le premier, c'est limiter les impacts sanitaires, sociaux et économiques de la pandémie. Le deuxième, c'est d'éviter de surcharger le système de soins, donc de s'assurer que les hôpitaux soient pas débordés et qu'on puisse continuer à soigner tous les malades pour pas se retrouver dans des situations comme il y a eu en Italie, par exemple, ou aux États-Unis, où on a dû faire des choix difficiles parce qu'il n'y avait pas assez d'appareils pour soigner tout le monde. Et le dernier critère, c'est de protéger les personnes les plus vulnérables, donc trouver des façons que le virus, même s'il circule, qu'il ne se rende pas aux personnes qui pourraient être affectées les plus durement. Donc, c'est pas une stratégie de suppression qu'on tentait ou que poursuivre et qu'on même poursuivait certains pays, comme la Nouvelle-Zélande, par exemple, il n'y a plus rien. Les Maritimes aussi, ou au Canada, sont plus agressives, il ne se passe plus rien là-bas. Ici, on semble vouloir gérer la pandémie, ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise stratégie. Je veux dire, il y a des questions de santé publique, c'est très complexe, le virus circule encore. On peut essayer de limiter les dégâts jusqu'à temps qu'il y ait un vaccin, mais bref, ça semble être la stratégie.
Oui. Alors, une autre stratégie, c'est d'avoir une approche adaptée pour chacune des régions. Mais vous posez la question sur Twitter, et je trouve que la question est très pertinente. Vous dites, comment on va faire pour réaliser ça s'il faut remonter jusqu'au ministère de la Santé à chaque fois pour s'ajuster à la réalité sur le terrain? Donc, on veut qu'il y ait des mesures locales qui soient ciblées, mais en même temps, la machine gouvernementale est tellement grosse. Est-ce qu'on va vraiment pouvoir réagir rapidement puis s'adapter pour chacune des régions?
Mon opinion personnelle, là, c'est non.
OK, c'est clair.
Mais c'est ce qu'on voit d'ailleurs depuis le début de la. Ça a commencé très tôt dans la pandémie. Par exemple, à Montréal, il y avait des gens sur le terrain qui disaient, écoutez, nous autres, on constate de la contamination communautaire. Fait qu'il faudrait qu'on arrête de tester juste les voyageurs. Hein. Je rappelle, là, au tout début, en mars, là, on testait seulement les voyageurs. Et il y a des gens qui, il y a un médecin à Montréal qui a dit, là, moi, non, je suis désolé, là, mais là, je vérifie. Puis là, on a commencé à constater la transmission communautaire. Mais à Québec, on voulait pas entendre ça. Un autre exemple, par exemple, à un moment donné, c'est la docteure Drouin, qui est la chef de la santé publique à Montréal, fait valoir à la direction nationale que, écoutez, on a des employés qui reviennent de voyage, là, faudrait qu'on mette un confinement rétroactif. Pouvez-vous mettre ça rétroactif parce que ils ont des symptômes, puis ça pourrait être ça, puis on veut pas qu'ils se promènent dans le système. Et Québec n'a pas fait ça non plus. Donc, je pourrais continuer longtemps.
Mais oui.
Et quand ça part d'en haut, ça prend du temps à redescendre. Et des pays qui ont eu du succès, par exemple, l'Allemagne, c'est un pays dont le système, c'est un gros pays, l'Allemagne, c'est plus de 80 millions d'habitants. Mais c'est un pays qui a un système de santé qui est très décentralisé au niveau des Länder, les provinces, si on veut, puis même au niveau local. Donc,
ouais.
Ça réagit beaucoup plus vite sur le terrain. Par exemple, pour les dépistages, là, il y a des labos privés qui ont commencé à s'y mettre très rapidement de façon indépendante et autonome, sans attendre le gouvernement, des labos publics aussi. Puis quand je parle de privé, là, je parle aussi d'organismes à but non lucratif. Puis qu'est-ce que ça fait en sorte, c'est que au mois d'avril, il y avait déjà une capacité de test de 1 million par semaine, donc plus de 100 000 à l'échelle du Québec, et dans un système où il y a une couverture universelle. Mais pourquoi? Parce que il y avait des mesures qui étaient prises au niveau national, puis Mme Merkel, qui est une scientifique, a fait des présentations, mais les opérations, c'était au niveau local, puis on faisait confiance aux gens sur le terrain,
ben voilà.
Sur le coup.
Ben voilà.
Ils sont bien mieux placés. Ces gens-là sont pas plus nonos que nos décideurs à Québec, sauf qu'ils ont bien plus d'informations. Parce que
ils sont sur le terrain. Voilà.
Exactement. Puis tu peux me permettre, l'autre avantage aussi, là, c'est que quand ça se décide sur le terrain, il n'y a pas de considération politique. Hein? On n'est pas obligé de remonter. Là, plus la monnaie personnelle politique se mêle de ça, puis là, ça devient un peu plus compliqué. Ça se décide localement, c'est correct.
Oui, c'est ça. Puis on n'est pas en train de se dire, mon Dieu, si on fait une mesure qui est impopulaire, on risque de pas être réélu ou notre cote de popularité va baisser dans les sondages. Si t'es sur le terrain, la seule chose que tu veux, c'est éviter la contamination puis sauver des vies. Donc les considérations, évidemment, sont pas les mêmes. Je veux juste continuer avec le document, Patrick. Donc, on se pose évidemment tous la question, c'est quoi la différence, mettons, entre le palier jaune, le palier orange. Puis évidemment, on veut pas se rendre personne au palier rouge, parce que ça va être vraiment l'horreur. Ce qui est surprenant quand même, c'est qu'il n'y a pas tant dans le document, il y a tellement peu de détails justement sur la différence entre le orange et le rouge. Et vous écrivez, c'est comme si on n'avait pas envisagé d'aller au-delà du palier orange, du palier jaune. Donc, c'est comme incomplet quand même.
Générale... Pour remettre en contexte un petit peu, c'est-à-dire que dans le document, on voit le palier jaune, il y a une diapo qui est là pour l'expliquer, le palier orange, le palier vert aussi. Quand on arrive au rouge puis au orange sont mis ensemble dans un premier temps, un petit peu plus loin dans le document, par exemple, on voit qu'il y a plus de détails, mais moi, c'est une question que je soulevais, puis c'est est-ce qu'on a pensé qu'on pourrait se rendre là? Peut-être qu'il y avait une sorte de pensée magique qui laissait penser que la pandémie ne progresserait pas. Ceci dit, il y a quand même des conséquences réelles, précisées, qui pourraient découler, par exemple, du passage au palier orange, ce qui pourrait arriver, par exemple, dans le Bas-Saint-Laurent cette semaine, puis même dans la région de Québec. Par exemple, les rassemblements privés dans l'orange, ça pourrait tomber à 6 personnes. Ça, je pense que d'ailleurs, M. Dubé l'avait mentionné hier. Les rassemblements organisés dans des lieux publics, présentement, c'est 250 personnes. On pourrait redescendre à 50 personnes, comme c'était le cas plus tôt cet été. En alerte maximale, c'est-à-dire dans une zone rouge, les rassemblements privés seraient seulement pour des gens demeurant à la même adresse et les rassemblements organisés pourraient avoir des limitations qui seraient encore plus sévères. Donc oui, il y a d'autres choses qui est considérée, mais ça semble pas être final.
Ouais, c'est ça. Écoute, il y a un autre élément qui est drôlement important, c'est quand on considère les endroits, les activités et les indices de risque. Alors évidemment, les bars, mais les restaurants viennent juste après. Comment ça se fait qu'on ferme pas les bars et qu'on ferme pas les restaurants? Si le facteur de risque est si élevé?
Ouais. Écoutez, moi je suis quand même d'accord qu'à un moment donné dans... C'est pas à prendre à la légère, tout ça, évidemment. Moi, ça fait 6 mois que j'écris, puis que je publie, puis que je diffuse là-dessus. Puis j'ai été un des premiers à crier, je dirais, pour le masque.
Oui.
Dans une zone verte, que les activités se poursuivent normalement, c'est correct. Puis, on sait aussi qu'une grosse partie de la transmission, présentement, c'est dans des événements privés où les gens font pas attention. Par exemple, par contre, si on regarde ce qui est arrivé à Rivière-du-Loup, puis à Québec aussi, il y a des bars qui sont délinquants. Puis quand le taux de propagation commence à monter de façon assez forte, et c'est le cas là, dans le Bas-Saint-Laurent, là, il y a une semaine, là, il ne se passait rien, là, ça a explosé. Et là, dans ce cas-ci, là, je pense qu'un couvre-feu serait de mise. Juste arrêter de servir un lunch à partir de minuit, là, comme on a le ministre a annoncé hier, ça me semble un peu mince. Dans ce cas-ci, je pense que ça pourrait dire, écoutez, regardez, là, on arrête l'alcool à 10 heures, par exemple, là, on fait ça pour 2 semaines, on attend de voir que ça reste là, ça envoie un message fort.
Absolument.
Et après ça, au bout de 2 semaines, on peut réévaluer, ou même au bout d'une semaine, on peut voir, mais faut calmer le jeu un petit peu, et là, moi, je trouve qu'on attend. Puis pour les restaurants, moi, j'ai vu une étude passer il n'y a pas longtemps là, qui disait que les restaurants, c'est un endroit aussi de contamination qui est très, très forte, puis dépendamment des régions, là, ça peut même être la source principale, là, pas nécessairement au Québec. C'est pas un endroit que je serais pressé de fermer, mais c'est sûr qu'il va falloir, c'est des endroits à surveiller là, si on arrivait dans des zones orange ou rouge.
Ouais. Un autre point qui est drôlement intéressant, Patrick, dans le document, c'est que le fait là de se laver les mains, ça fait 6 mois là qu'on nous dit ça là, et bien laver les mains 20 secondes, alors qu'en fait, ben c'est vraiment les gouttelettes. Alors comment se fait-il qu'on continue à nous dire ça, l'affaire de se laver les mains, alors que c'est pas vraiment ça qui va faire une différence?
Bon, il y a deux choses là-dedans là. Il y a une partie qui est probablement le fait qu'on veut pas trop mêler la population pour dire « faites quelque chose, faites-le plus », comme on a fait avec les masques.
Hein, avec les masques, ouais.
Extrêmement dommageable de dire que le masque sert à rien, peut même être nuisible, puis après ça, dire « s'il vous plaît, portez-le, c'est vraiment important ». C'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent pas. Fait qu'il y a une partie qui est probablement pour ça, pour la constance dans le message. L'autre partie, moi, je pense, c'est un peu la direction de la santé publique est tiquée là-dessus, puis veut rester sur son message, notamment Dr Arruda, là, qui est il est établi là-dessus depuis le début. Je pense qu'il veut pas en décoller, mais je me demande jusqu'à quel point c'est pas un enjeu de contamination. Excusez-moi, c'est pas contamination, c'est pas le mot que je cherchais, mais un enjeu de communication, pardon.
Oui.
Alors que ce qu'on voit présentement, c'est il peut y avoir la transmission par les contacts, là, mais ça semble vraiment pas être un facteur principal. C'est vraiment une transmission qui est aérienne. Moi, juste à titre d'anecdote, là, j'ai vu cet été, là, ma fille joue au soccer.
Ouais.
Il désinfectait les ballons de soccer à tous les matchs. La seule affaire que ça fait dans ce temps-là, là, c'est que t'écœures le monde, puis tu donnes l'impression de prendre des précautions. Non. Puis même dans les piscines, écoutez, les piscines là, à Laval, là, c'était vidé aux heures. Puis on désinfectait les échelles, puis les échelles, puis les rampes là, pour sur les piscines. Évidemment, ça donne rien. Puis t'es 50 dans la piscine, et tu retournes après, ça change absolument rien. Mais on le faisait parce qu'on faisait le protocole. Fait que j'ai comme l'impression que on est là à s'ajuster. Fait qu'on le fait parce qu'on le faisait, puis on continue à le faire. Mais ça serait important d'envoyer un message clair pour dire regardez, faites pas exprès là. Puis lavez-vous les mains, c'est correct quand vous manipulez des objets, mais c'est pas ça qu'il faut faire attention.
Mais c'est que c'est plate, Patrick, parce que quand on a des gens qui, justement, respectent le protocole à la règle, à la minute près, ben ça fait qu'il y a plein de gens qui s'empêchent de vivre. Alors, si on pouvait enlever les mesures qui, de toute façon, on sait qu'elles servent à rien ou à pas grand-chose, ben ça simplifierait la vie quand même de beaucoup de gens. Parce que là, on est en train de s'enfarger dans les fleurs du tapis à faire des affaires inutiles. T'as appelé ça des règles nounounes. Puis pendant ce temps-là, il y a des choses essentielles comme ne pas aller dans un karaoké que les gens ne respectent pas. On est comme en train de faire la mauvaise bataille, là.
Mais parce que exactement, en voulant être parfait partout, à un moment donné, on dissuade les gens de suivre les règles parce que quand il y a trop de règles, à un moment donné, tu finis par dire
oui.
Ok, c'est correct, là, je vais faire ce qui me semble raisonnable parce qu'à un moment donné, c'est juste
c'est
plus possible. Là. Tu sais, quand tu es commandé pour une pratique de soccer, faut que t'arrives une pratique d'une heure, faut que t'arrives une demi-heure avant, puis il faut que t'attendes 20 minutes après pour quitter le terrain, tu sais, ça finit par être lourd un petit peu. Puis c'est un peu ce que les gens à un moment donné doivent se dire à un moment donné, là, c'est fini, il faut que je lave mes mains 20 fois par jour, après ça, je peux plus faire ci, je peux pas faire ça, c'est un peu trop. Moi, je pense qu'on doit cibler à un moment donné pour dire, écoutez, la mesure principale, c'est ça, concentrez-vous là-dessus. Prenez pas de risques inutiles pour le reste, là. Mais il y a un paquet de désagréments qui sont inutiles, des commerces, des entreprises aussi qu'on leur impose, là. Beaucoup de lourdes, je dirais, procédures à faire pour la désinfection, des objets, des sièges, tout ce qui était touché par les clients, et même la chaise de coiffeur, là, je m'assois dessus, là, mes vêtements sont pas contaminés, là, sinon
ben non.
Je dis que le rentre chez nous, faudrait que je prenne une douche chaque fois. Là. Fait que tu sais, c'est faudrait se concentrer sur l'essentiel. Là, ça aiderait beaucoup pour l'adhésion des mesures aux mesures parce que tu sais, on n'est pas sorti de là, là. On en a encore pour un certain temps. C'est important que les gens restent à bord, puis pour ça, ben je pense qu'il faut cibler.
Oui. Et écoutez, Patrick, ce document-là, vous l'avez rendu public parce que vous trouvez que c'est important que l'information se propage. Pas le virus, mais l'information, elle doit se propager. Et en même temps, vous dites sur Twitter, vous dites la solidarité, c'est aussi de faire confiance à ceux qu'on dirige. Donc, est-ce que vous trouvez que le gouvernement a manqué de confiance dans la population en ne divulguant pas ces informations-là?
Moi, à chaque fois que je parle à des gens qui sont proches du politique, là, qui sont proches des communications, par exemple, et j'en ai quelques-uns qui m'ont interpellé là, depuis le début de la pandémie, parce qu'à un moment donné, ce que je disais clashait un petit peu avec le message officiel, là, et on dit, on peut pas dire ça parce que les gens comprendront pas, parce que ça va inquiéter, parce que ça va faire de la panique, parce qu'on sait pas comment les gens vont prendre l'information. Quand tu fais ça, là, moi, je pense, à mon avis, si t'enferges dans tes lacets puis tu compliques les choses, là, tu finis par perdre le monde. Les gens sentent qu'on leur cache des choses. Ils finissent par faire moins confiance. Puis là, à un moment donné...
Ça donne des complotistes.
Ouais. Exactement. Ils vont boucher les trous eux-mêmes. Fait qu'à un moment donné, il faut traiter les gens comme des adultes. C'est sûr que ça se peut qu'il y a des gens qui vont être inquiets, qui vont mal comprendre. Mais la grande, grande majorité d'entre nous, là, c'est bien plus l'inconnu qui nous fait peur que d'avoir l'information.
Absolument. Patrick, on va se quitter là-dessus. Merci beaucoup, Patrick Derry. Donc, j'encourage tout le monde à aller voir sur votre fil Twitter, Patrick Derry, analyste en politique publique. Donc, ce scoop, vous avez tous les détails vraiment là, de tous les paliers de couleurs, les critères, les directives. Tout le plan est là. On a juste à aller le lire puis se renseigner. Puis, en effet, je pense qu'il faut faire confiance à la population. On n'est pas nono, là. Nous traitez pas trop comme des enfants quand même parce que, à un moment donné, il faut avoir confiance dans les gens. Merci beaucoup, Patrick Derry.
Merci à vous.
C'est comme ça que se termine l'émission. Merci beaucoup d'avoir été là. On se retrouve demain. Je voudrais remercier rapidement, parce que le temps me manque, Samuel Boulay-Grimard à la mise en onde et Hugo Veilleux à la recherche. À demain.
Cube Radio.